l'heure.
Boulevard. 102-1.
Moins 1 degré à Québec, on nous dit que c'est de la neige faible. Et en effet, quand je regarde par la fenêtre du 815 Le Bourgneuf, c'est ce que je peux observer, des petits flocons qui ont commencé à tomber dans les dernières minutes. Moins 2, c'est ce qu'on ressent. On va rester dans ces eaux-là pas mal toute la journée. Puis même cette nuit, ça refroidira pas outre mesure. Demain samedi, c'est 1 degré et 40% de possibilité d'averse de neige. Dimanche, de la neige intermittente aussi. Après ça, pour lundi, des nuages, 2 degrés. Mardi, 1 degré. Puis après ça, petite anomalie, mercredi 26 novembre, c'est 7 degrés qu'on va prévoir au thermomètre avec de la pluie. Fait que la neige qui va tomber dans les prochains jours potentiellement pourrait disparaître là, au courant de la semaine prochaine, particulièrement mercredi, si ce 7 degrés-là doit rester dans les prévisions sur les routes. Je dois vous dire que ça a quand même bien été tout au long de la matinée. Présentement, le seul rouge que je vois sur la carte, c'est Laurentienne Sud vers la capitale, puis Capitale Ouest, hauteur Laurentienne. Là, c'est pas mal le seul problème qu'on a sur la route. Et d'ailleurs, on va parler de problèmes sur la route ou de situations qui s'améliorent, mais à la base, c'est un peu pour ça que je voulais parler à notre invité, parce que le Journal de Québec rapporte une baisse de 4 % de la circulation interrive entre Québec et Lévis entre 2018 et 2025. Puis là, quand je rapportais cette nouvelle-là ce matin, par texto, ce qu'on disait, c'est voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on est pognés dans le trafic, puis c'est pire d'année en année. Puis fait que là, on revient encore une fois dans tout le débat autour du troisième lien Québec-Lévis. Là, je vous parlais il y a quelques minutes à peine de cette autre nouvelle-là qu'on a aujourd'hui, en fait, qui est tombée hier soir aux alentours de 18h30 là, de mémoire, que le gouvernement du Québec repousse encore une fois des annonces concernant le troisième lien. Bref, quelqu'un que vous voyez souvent là, réagir dans les médias par rapport à ces enjeux-là de circulation à Québec, Fanny Tremblay-Racicot, qui est professeure agrégée à l'École nationale d'administration publique. Salut Fanny.
Bonjour Maxime, bonjour tout le monde.
Donc comme je le disais, le journal qui rapporte cette baisse-là de 4 % de la circulation entre Québec et Lévis, ça c'est quand on compare les chiffres de 2018 aux chiffres là, de cette année les plus récents. Donc il y en a qui se demandaient ce matin, c'est-tu parce qu'on compte des chiffres de la pandémie? Non, c'est vraiment les chiffres les plus récents. Évidemment que la pandémie a eu des impacts sur nos habitudes, mais pour ce qui est vraiment des chiffres, là, il n'y a pas d'histoire de pandémie là-dedans. Est-ce que tu étais surprise de ces chiffres-là ce matin, Fanny, ou... pas du tout?
Non, bien en fait, toutes les explications, s'il y a des gens qui s'intéressent à ça là, pour aller voir les données et tout, c'est dans l'enquête origine-destination qui a été publiée en, je dirais pas en catimini, mais en douce au printemps dernier. Donc, la dernière enquête origine-destination rapporte essentiellement les mêmes chiffres. Puis là, ils font une analyse encore plus fine. Puis eux, tu sais, ce qu'on dit dans cette enquête-là, c'est que la baisse des déplacements est due au télétravail, la moitié est due au télétravail, puis l'autre partie est due au vieillissement de la population, c'est-à-dire que les gens se déplacent moins. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de congestion. Puis les gens qui sont pris dans la congestion, ben ils savent qu'ils sont pris dans la congestion. Fait que c'est un peu, il faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Là. Pour certaines personnes, il y a un problème. Mais ce que les études disent, c'est « you can't build your way out of congestion ». Tu peux pas construire, faire un troisième lien, augmenter la capacité routière, puis penser que ça va réduire la congestion, au contraire. C'est à cause de la demande induite en transport, puis je pense que vous en avez peut-être parlé à votre émission, mais c'est parce que plus tu augmentes l'offre en transport routier, plus tu as une augmentation de la demande. Fait que c'est sûr qu'à court terme, tu as une réduction de la congestion, mais à moyen terme puis à long terme, il y a une augmentation.
Puis ça, on pourra y revenir, là. Puis je pense qu'une des images qui avait marqué il y a quelques années, c'est Catherine Dorion quand elle faisait une comparaison entre la congestion routière et faire de la poudre, que là, tu veux, c'est toujours plus de poudre puis plus de poudre. Comment on l'explique alors qu'il y a une diminution au niveau des chiffres, mais que monsieur, madame, tout le monde, dans le trafic, a cette impression-là d'attendre plus longtemps? Là, ce qu'on constate, ouais, c'est que pour ce qui est du pont Pierre-Laporte, il y aurait une petite augmentation. Par contre, côté pont de Québec, il y a une diminution. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que les gens davantage passent sur le pont Pierre-Laporte Donc, en effet, oui, il y a plus de trafic sur le pont Pierre-Laporte, ça a été calculé, mais là, dans les chiffres, c'est vraiment les deux ponts ensemble.
Mais c'est ça, je regardais juste avant d'entrer en onde les chiffres, puis il y a globalement, il y a une diminution. Ça, c'est sur l'ensemble, enquête origine-destination sur 24 heures. Fait que c'est pas juste sur les ponts, là. Mais globalement, il y a une diminution. Mais l'heure de pointe de l'après-midi, il y a une légère augmentation. L'heure de pointe du matin, il y a une légère augmentation. Ça explique le fait que à certains moments dans la journée, il peut y avoir une augmentation
OK.
perçue, ressentie et réelle de la congestion.
Dans le journal, on peut lire que, selon toi, puis je rappelle qu'on parle à Fanny Tremblay-Racicot, qui est professeure agrégée à l'École nationale d'administration publique, que le meilleur moyen d'assurer la fluidité dans la circulation Rive-Nord, Rive-Sud, bien, ce serait d'obliger les grands générateurs de déplacement à se doter de plans de gestion de déplacement, puis en gros, faire que les employés, les visiteurs, bien, seraient incités à se déplacer autrement qu'en voiture. Ça, dans l'idéologie, c'est bien beau, puis ça fait beaucoup de sens. Maintenant, à quel point c'est vraiment réalisable? Comment on peut mettre ce plan-là en place puis en arriver à du concret?
Mais c'est pas de l'idéologie, là. C'est la recherche scientifique depuis 10-15 ans que je mène des études sur comment réduire l'utilisation de l'auto solo dans les grandes villes américaines. Puis le meilleur cas qu'on a observé, c'est l'État de Washington et la ville de Seattle. Donc, on s'est dit, eux, ils ont des chiffres extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis, ce que j'ai découvert, c'est que l'État de Washington, comme ça serait l'équivalent du gouvernement du Québec, oblige les employeurs de 100 employés et plus à avoir des plans de gestion de déplacement en entreprise. Puis, les plans de gestion de déplacement en entreprise, tu as des équipements sur place, tu as des flottes de voitures pour les employés, tu payes le laissez-passer de transport collectif, tu as des incitatifs et tout ça, mais ça fait en sorte que les gens qui il y a davantage d'offres de transport alternatif à l'auto solo. C'est-à-dire que les gens qui peuvent, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent pas, ils sont obligés de prendre leur voiture, puis c'est vrai qu'il y a du camionnage et tout ça, mais les gens qui peuvent prennent d'autres modes. Puis le télétravail, ça fait partie de ça aussi. Puis ça fait en sorte que c'est pas, tu sais, c'est l'employeur puis les lieux de destination qui ont un peu la responsabilité de concevoir ces plans-là. Puis ça peut faire du sens, par exemple, là, ce qu'on regarde dans l'enquête origine-destination, la dernière, là, ce que ça a révélé, là, c'est que c'est le pôle Lebourgneuf qui est le pôle d'attraction numéro un à Québec. C'est plus la colline parlementaire, c'est plus Sainte-Foy, c'est rendu Lebourgneuf. Puis on s'entend que le tramway, est-ce qu'il passe par Lebourgneuf? Non, alors que c'est le premier pôle de destination.
Il y a un
Et
problème.
puis, il y a un problème. Puis, mais ce pôle-là, là, il y a vraiment des origines multiples. Donc, c'est quand même difficile de dire on va faire un axe de transport collectif parce qu'il y a vraiment plein d'origines. Alors que si ce pôle-là, les grands employeurs ou les centres commerciaux, par exemple, déploient des mesures autres, ou des lieux qui ont beaucoup de qui ont des lieux de destination qui ont beaucoup d'origines, par exemple, des entreprises comme Olymel à Trois-Rivières, là, des grands employeurs qui sont difficiles à desservir en transport collectif, mais si eux, ils ont des navettes employées, ben ça permet de faciliter le recrutement, puis ça permet aussi à des gens qui ont, tu sais, pour diminuer aussi les coûts en transport, là, tu sais, ou des, mettons, le groupe Océan à l'Île-aux-Coudres, ben eux aussi, ils ont des navettes employées, là. Ils font du covoiturage et tout ça. Fait que ça permet aussi de réduire les coûts de déplacement pour les employés. Fait que je m'inspire de dans cette proposition-là, de ce qui est fait ailleurs là aussi, là.
À ce niveau-là, donc, je comprends que le gouvernement du Québec, pour être un peu dans l'actualité, le gouvernement du Québec qui veut ramener des employés en télétravail au travail en présentiel, ben ça vient pas aider la cause sur les routes.
C'est pas cohérent avec les meilleures pratiques de gestion de la demande en transport.
OK.
C'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Ça ramène des gens sur la route. Je comprends que ça peut aider les commerçants au centre-ville. Puis il y a une perception de contrôle sur le travail des employés. Mais si on veut réduire la demande, puis là on dit que c'est congestionné en Haute-Ville, puis que ça devient de plus en plus difficile de monter puis de descendre en voiture, ben c'est parce qu'il y a trop de monde qui revient au bureau. Mais ben, il me semble que la logique voudrait qu'on poursuive. Puis les chiffres, ils démontrent là, que ça diminue la demande en transport de ces grands pôles-là. Puis selon moi, c'est vers là où on devrait aller. C'est la sobriété, c'est de se déplacer moins, se déplacer sur de plus courtes distances, faire du trip chaining, donc dans un déplacement, faire plusieurs arrêts. Si on veut que l'État soit exemplaire, il faudrait d'abord que lui ait des plans de gestion de déplacement pour ses employés, qui paient le laissez-passer de transport collectif aux employés. Ça finance les sociétés de transport. Ça permet aux gens d'avoir un. Ça incite les gens à le prendre quand tu as ton laissez-passer de transport collectif payé par l'employeur. Puis s'il y a une application de covoiturage déjà de payer, ben ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces applications-là. Puis ça permet aux gens de trouver des gens avec qui naviguer. Si t'es sociable, tu vas endurer quelqu'un le matin, là. Ça, c'est une autre question. Mais tu sais, avant d'augmenter la capacité routière, faut s'assurer que toutes les autres options aient été envisagées. Qu'il y ait du transport collectif, que les grands employeurs aient des plans de gestion de déplacement. Une fois que tu as fait tout ce que tu pouvais, là, tu peux réfléchir à augmenter ta capacité routière.
À quel point le projet de tramway de Québec qu'on a évoqué tantôt, puis là on parlait du fait que ça vient pas dans le Bourgneuf, puis que ça à la base, ben il y a peut-être une certaine problématique là, mais généralement le projet de tramway de Québec, est-ce que c'est vrai que ça va enlever beaucoup de voitures de nos routes et aider la circulation pour les automobilistes en bout de ligne?
Ce qu'on voit dans la littérature, généralement, avec les projets de tramway, ça diminue la congestion dans l'aire d'influence du tramway, là, c'est-à-dire à proximité du tramway. Donc, en ville, là, on peut s'attendre à ce que la congestion diminue, mais honnêtement, j'habite en ville, il n'y a pas vraiment de congestion. Il n'y a pas de problème vraiment pour moi. T'sais, c'est sûr que c'est des fois, c'est difficile de rentrer puis sortir, puis à certaines heures, il y a le 801. Ou certaines lignes, 800, 801, il y a du monde, là.
Mais
Sauf que, est-ce que...
généralement, ces bus-là font le travail, là.
Généralement, hors pointe, tu sais. C'est ça. Donc, il faut s'attendre à ce que, oui, il y ait une diminution de la congestion en ville parce que les gens prennent le tramway, les gens viennent plus en auto parce qu'il y a moins de capacité routière en voiture aussi. Donc, ça dissuade. Mais le problème va rester tout entier, à l'extérieur du centre-ville, là.
Dans les dernières heures, en fait, hier soir, comme je le disais, vers 18h30, le gouvernement du Québec, ou du moins, on a appris que le gouvernement du Québec allait repousser encore une fois une annonce sur le troisième lien Québec-Lévis pour ce qui est du tracé plus exact et du coût qu'on devrait avoir. On devait avoir ça dans les prochaines semaines. Finalement, on nous parle maintenant de l'hiver. Fait quand même quelques semaines, c'est pas quelques mois de retard à ce niveau-là. Fanny Tremblay-Racicot, penses-tu qu'il va se faire le troisième lien?
Non, je pense pas qu'il va se faire, mais peut-être qu'il va y avoir une tu sais, le troisième lien tel que présenté, là, tel que réfléchi, un pont-tunnel et tout ça, je pense pas que ça va se faire parce que c'est trop onéreux. On a d'autres besoins au Québec qui sont plus pressants que ça. Je pense qu'il faut investir dans l'entretien, dans le remplacement des suspentes, de s'assurer que les deux ponts actuels soient sécuritaires, puis de prolonger leur durée de vie.
Maintenant, un troisième lien à l'est pour la fameuse boucle périphérique, ça, selon les études et tout ça, est-ce que ça aiderait d'avoir cette possibilité-là d'avoir un pont à l'est?
Ben, le problème du pont à l'est, c'est que de un, tu ne vas pas réduire ton problème de congestion. De deux, ça risque de l'empirer. Ensuite, les gens vont aboutir sur la 40, qui est déjà congestionnée. Puis ensuite, ben, il y a toutes les bâtures de Beauport, là. Tu viens quand même intervenir dans un milieu écologique vraiment sensible, puis un paysage aussi. Puis est-ce qu'on veut vraiment développer, avoir du gros développement immobilier sur les terres agricoles de la rive sud? Non plus. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que ça va simplement augmenter la congestion, là. Ça va pas résoudre le problème, là, de fluidité. Puis tu sais, compte tenu des chiffres, qu'il y a de plus en plus de déplacements à l'ouest, ben, ça ferait plus du sens d'avoir un, tu sais, au pire, le tracé actuel du troisième lien, qui est davantage, puis d'après moi, c'est pour ça que ça a été la solution qui a été envisagée. Même si, dans l'étude de faisabilité des différents corridors, il n'y avait pas la note de passage, ce tracé-là, mais ça reste que il est quand même dans de milieu urbain, semi-urbain sur la rive sud, là, mais tu sais, c'est vraiment milieu urbain sur la rive nord à Québec. Mais là, c'est parce que tu vas venir défigurer Déjà, une partie de la ville de Québec qui n'est pas extraordinaire. Tu vas faire une grosse autoroute dans la ville de Québec, puis on ne veut pas ça non plus, là. Et après ça, tu vas aboutir encore dans des endroits qui sont déjà congestionnés. On ne va pas gagner en tant que région, là.
En terminant, Fanny, parce que c'est un argument qui revient souvent, ça, chez les pros, troisième lien, le fameux argument du pont Pierre-Laporte. S'il arrive quelque chose sur le pont Pierre-Laporte pour les camions lourds qui peuvent pas passer sur le pont de Québec, ben à ce moment-là, le détour, faut aller à Trois-Rivières, puis même à Trois-Rivières, le pont, ben il y a eu beaucoup de travaux dans les dernières années. Souvent, c'est très, très problématique, ce secteur-là. Pour toi, cet enjeu-là du camionnage sur le pont Pierre-Laporte, c'est pas suffisant pour comme argument pour avoir un troisième lien.
Ben, depuis le temps que le pont Pierre-Laporte existe, combien de fois ça a été, t'sais, à quel point c'est vraiment un problème réel, là, je me questionne là-dessus. Mais pour moi, le problème le plus criant, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de gens de l'extérieur de la région de Québec qui empruntent les ponts pour se rendre à leur lieu de travail, mais qui habitent vraiment à l'extérieur de la région. Puis à cause de l'inabordabilité des logements, sont obligés d'aller se construire dans Portneuf, en Beauce, puis qui viennent travailler à Québec, mais qui habitent vraiment en semi-région, là, puis qui tu peux pas blâmer ces gens-là parce que tu peux pas blâmer à quelqu'un de vouloir accéder à la propriété, là. Fait que pour moi, il y a une grosse solution qui passe par la question du logement, que les gens ils puissent habiter en ville, là. Donc il faut construire dans la région à proximité des lieux de travail. Mais ça, tu sais, je veux pas être idéologue là, mais c'est vraiment selon moi une des sources du problème aussi, l'habitation.
Fanny Tremblay-Rassicot, professeure agrégée à l'École nationale d'administration publique. Je sais que Fanny, que tu parles aussi beaucoup de fusion municipale. Je le vois souvent passer dans les médias, puis c'est un sujet qui m'intéresse. Puis d'après moi, on va avoir l'occasion d'en reparler sous peu. Mais je me doutais bien que le sujet d'aujourd'hui allait prendre tout le temps qu'on avait.
Oui, mais je te dirais que la question des fusions, c'est encore un sujet plus sensible que le troisième lien. Donc, je suis pas sûre que je veux en reparler, mais ça me fera plaisir là, de rediscuter avec vous.
Merci beaucoup, Fanny.
Salut, bon après-midi.
Au retour, c'est Audrey Pinchot qui est là pour l'Open Mic. C'est vendredi, donc Mademoiselle V, conseillère en sexologie, sera avec nous. Puis comme tous les vendredis, il risque d'y avoir bien du plaisir, un petit peu de cabotinage parce que je suis présent en studio, mais toujours intéressant et pertinent aussi comme contenu. Vous écoutez le Point de Max, il est 10h55.